Alors, nous sommes là pour parler de deux petits éditeurs, deux éditeurs en tout cas, de littérature. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait et ce que sont les soirées de la petite édition telles qu'elles sont inscrites dans le programme. Donc moi, je m'occupe de faire découvrir des petits éditeurs, des catalogues dans une librairie à Paris. Et on s'est dit que c'était le bon endroit pour le faire avec des éditeurs qui traitaient des genres, notamment au sein de leur catalogue. Pour les utopiales. Donc d'habitude j'ai une heure et demie pour présenter un éditeur, là j'aurai une heure pour présenter deux éditeurs, donc ça va être un peu plus rapide et un peu plus nerveux. Donc ce soir deux éditeurs, les éditions Dystopia Workshop, avec pour les représenter Olivier Treneul, le président de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Avec le micro.
Bonsoir.
Les éditions Asphalt avec Claire Duvivier.
Bonsoir.
Et puis, pour ne pas laisser la parole qu'aux éditeurs, on a décidé de garder sur scène avec nous Yves et Ada Rémy. Bonsoir.
Bonsoir.
Dont les soldats de la mer sont. Dont les soldats de la mer sont récemment reparus aux éditions Dystopia Workshop. Et puis avec nous ce soir aussi Charlotte Desmousseaux, qui est libraire à la librairie des machines et qui est l'instigatrice de cette soirée, celle sans qui rien n'aurait pu se faire.
Bah, merci à vous beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation de la librairie des machines.
Donc on va parler des catalogues, et puis à la fin Charlotte prendra 10 minutes, un quart d'heure pour vous présenter ses coups de cœur chez Asphalt, et puis tout en sachant que vous avez à votre disposition sur le côté de la scène une table où vous pouvez retrouver les livres pour les feuilleter un peu plus longuement. Travailler avec le travail d'éditeur tel que vous le pratiquez, on le voit assez rapidement dans le catalogue Dystopia, un peu moins rapidement dans le catalogue Asphalt, c'est que vous avez une façon de concevoir la littérature qui n'est pas du tout détachée des genres, c'est-à-dire que on peut pas dire que vous ayez des catalogues de pure SF, de pure fantastique, fantasy, mais par contre, c'est quelque chose qui est toujours présent, toujours au cœur de vos préoccupations littéraires. Alors pour commencer, on va faire une petite présentation de vos maisons. Dystopia Workshop, qu'est-ce que c'est et comment ça a commencé?
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est surtout 10 titres maintenant, beaucoup de nouvelles, un premier roman là qui vient de paraître, il y en aura d'autres l'année prochaine avec Yves et Ada notamment. Pas forcément, comme tu le disais, du genre, mais à chaque fois effectivement le fantastique où la science-fiction vient fuser l'ensemble. En fait, la maison d'édition ressemble un petit peu au lecteur qu'on est. On est tous les trois, enfin les trois qui sommes à l'initiative de la maison d'édition, on vient de l'ASF, on en a lu tous beaucoup. On aime beaucoup ça, et donc voilà, on retrouve un peu dans notre catalogue cette partie-là. Sachant que voilà, on a aussi évolué, donc c'est pas de la pure SF, c'est pas du pur fantastique, même si encore Lisa Tuttle, ça en est, mais voilà. Mais le genre imprègne l'ensemble. Après, comment c'est né côté Dystopia, un peu par hasard. L'idée n'était pas de faire de l'édition au départ, mais voilà. Et puis on a eu un coup de cœur pour un livre qui s'appelle Yamaloka Terminus de Léo Henry, Jacques Mukeli, qui avait été reçu par Xavier à la librairie Scylla. Et ensuite, on avait rediscuté avec eux. Ils nous avaient dit on a d'autres idées autour de cet univers-là. Et on aimerait bien le faire avec vous, donc ça a démarré par le premier livre de la maison d'édition, qui s'appelle Barayogoy, et puis le reste a suivi comme ça, je vais dire.
Et pour Asphalt, alors?
Alors, pour Asphalt, la maison a été créée il y a quelques années, donc nous sommes deux, mon associé Estelle Durand et moi-même. C'était une envie qu'on avait depuis longtemps, depuis qu'on se connaissait, depuis les années fac, de faire notre maison, donc ça a mis un certain temps à se faire, on a fait nos expériences chacune de notre côté, et au moment où on a vraiment commencé à se faire, l'idée c'était de faire des livres qui allaient plus ou moins s'affranchir des genres, des étiquettes en fait. Notre idée c'était de faire vraiment des livres qui étaient autour de la ville, donc d'où le nom de la maison, Asphalt, de la ville, mais aussi des contre-cultures, du voyage, du nomadisme, de la musique notamment, et s'il y a bien... une littérature qui s'intéresse à la ville, c'est quand même les genres, c'est le polar, c'est la science-fiction, c'est des genres qui sont quand même très urbains. Donc en fait, sans qu'il y ait de volonté de notre part d'avoir des titres dits de genre au catalogue, oui, on a des auteurs qui effectivement peuvent appartenir à ce qu'on appelle la littérature de genre.
Là, le catalogue est un peu plus conséquent. On compte, je crois, 24 titres dans la collection fiction, plus la collection des villes noires. Comme c'est la collection la plus connue d'Asphalte et celle qui est peut-être qui porte un peu la maison habituellement, on va moins s'y attacher. On va rester sur les fictions et puis on va. Donc en fait, moi ce que je vous propose ce soir, c'est de faire un petit tour des deux catalogues en regardant justement l'expression des genres dans la production des éditeurs. Et on va commencer par une lecture, on va laisser parler les textes, et en l'occurrence, c'est un texte de Francisco Zuniaga, L'île invisible, un roman qui est paru le mois dernier.
Oui, il est paru en septembre, donc c'est un livre tout récent, un roman vénézuélien. Donc c'est notre premier roman du Venezuela, même si on a beaucoup d'auteurs sud-américains par ailleurs. Alors. De la terrasse du Hans, une cigarette à la main, Dieter observait le passage des minutes teindre en gris les tons sépia de l'après-midi. La terre et la mer, alliées à un soleil transi, perdaient leur couleur avec une lente noblesse et se résignaient à l'arrivée de la nuit. Il fumait lentement, au rythme du crépuscule, laissant passer un bon moment entre chaque bouffée pour que le tabac et la lumière se consomment ensemble, dans un rite dont il était l'officiant. C'était son heure de solitude, celle qu'il se réservait pour mettre le cap, depuis la poupe de sa terrasse, sur les vicissitudes de la vie dans un endroit comme Margarita, où les certitudes n'existaient pas, rien que des attentes, ou à la limite des espoirs. Aujourd'hui, ses méditations commençaient, s'achevaient et recommençaient avec la visite d'Edeltraud Kreutzer. Il revivait mentalement leur conversation du matin par bribes et ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de ce qu'elle allait trouver au cours de son enquête. Il n'avait pas connu Wolfgang Kreutzer. Et il n'avait pas réussi à apprendre quoi que ce soit sur sa vie à Margarita. Jusqu'à ce matin, il l'avait pris pour un simple citoyen tué dans un accident. À présent, il s'agissait de la possible victime d'un crime apparemment passionnel, du point de convergence des lignes d'une conspiration. Il espérait que l'auteur de la lettre anonyme n'irait pas au-delà de la vengeance qu'il avait semblé vouloir exercer contre la veuve de Wolfgang, Renata, en envoyant ce courrier. Il craignait qu'une telle nouvelle provoque un énorme scandale au sein de la communauté allemande. Il préférait pourtant cela à un retour en Allemagne de Madame Kreutzer sans la vérité qu'elle était venue chercher. Il ne lui serait pas facile de se déplacer dans les méandres de la topographie bureaucratique de Margarita. Cela exigeait des qualités qu'elle n'avait sûrement pas, et pour les avoir vécues, il connaissait les souffrances que les Caraïbes pouvaient causer chez les spécimens d'ascendance germanique. Des gens qui ne comprenaient pas qu'ici, il ne suffisait pas de respecter les lois, de se conduire correctement avec autrui et d'attendre la même correction au retour. Que ce n'était pas suffisant, qu'on était là dans un autre monde, plus tellement neuf et pas forcément meilleur, mais tout à fait différent. Un endroit où toutes les règles étaient floues et où, paradoxalement, la seule avérée était qu'il n'y en avait aucune. Absurde ? Dieter en était convaincu, mais il savait qu'à Margarita, l'absurde relevait des arrangements permanents qui permettaient l'équilibre entre les gens et leur entourage, et que l'accepter faisait partie de la recette du bonheur. Autrement, il n'y aurait pas de survie au milieu d'une frénésie nourrie par la nature elle-même. Un climat uniforme et irrégulier à la fois, un été interminable entre le sec et l'humide, régi par aucune loi naturelle, qui calcinait ou inondait la terre selon ses humeurs. Un temps qui s'écoulait sans règles et auquel il serait stupide de vouloir en imposer une, car les arrangements humains ne pouvaient rien contre cette démence cosmique. Ils étaient inutiles ou superflus. Des gens qui, en accord avec la nature chaotique, tenait l'informalité pour un dogme et ne s'attachait pas à des modèles sacrés dans d'autres parties du monde.
Lui-même, alors qu'il arrivait à peine d'Allemagne, avait subi cette réalité. Il avait souffert du sens des horaires propres à l'île jusqu'à ce qu'il accepte que, sous ses latitudes, il valait mieux pressentir les heures que les mesurer. Depuis l'école, il considérait la montre comme un outil indispensable à la vie, mais, peu après son arrivée, ainsi que le faisaient la plupart des habitants de l'île, il avait fini par laisser la sienne à la maison. À quoi bon s'en encombrer si les autres ne le faisaient pas, si pour connaître l'heure, il suffisait de regarder le ciel et distinguer sans problème le soleil de 8 heures de celui de 9 heures, ou encore celui de 14 heures de celui de 15 heures. C'était le plus convenable. S'imprégner de l'idée qu'ici fonctionnait une autre échelle de temps, qui ne comptait ni les secondes ni les minutes, et dont les heures elles-mêmes n'existaient que précédées de l'expression « dans les 8 heures, dans les 9 heures, dans les 10 heures ». Personne ici n'était ponctuel, comme en Allemagne. Et pourtant, ce sens diffus de la temporalité convenait à l'imprécision naturelle qui règne sous les tropiques. Éditeur savait que Madame Kreutzer ne comprendrait pas ce mode de vie, même si elle restait un siècle à Margarita. Il pouvait l'imaginer, fermement décidé à ne faire aucune concession et exigeant une réponse que même Dieu ne connaissait pas. Elle ignorait et ignorerait que la réalité de l'île était un prisme qui composait à sa guise la lumière et les couleurs, sans modèle préétabli, et que même la lumière divine n'échappait pas à cette distorsion. C'est pourquoi son acharnement ne pouvait le rendre optimiste. Il espérait que l'avocat Benitez pourrait l'aider et qu'elle le laisserait l'assister durant son séjour à Margarita. Personne d'autre n'était susceptible de le faire. La belle-fille de Madame Kreutzer, qui avait sans doute appris à évoluer ici, n'était pas indiquée, car c'était vers elle que se dirigeraient ses soupçons. L'histoire de la veuve et son amant était-elle vraie? Avait-il tramé et commis un meurtre? Il avait du mal à y croire, car il connaissait la force de la curiosité et le caractère suspicieux des habitants de l'île. Et il était impossible qu'une situation aussi classique que celle à laquelle l'expéditeur anonyme faisait allusion n'ait pas soulevé une tempête de rumeurs post-mortem. Ce bourdonnement humain que l'on perçoit dans les cinq sens et envers lequel on ne peut rester indifférent aurait commencé en plein recueillement. Il s'était rendu aux pompes funèbres la nuit de la veillée de Wolfgang avant d'envoyer son cadavre à Caracas pour le rapatrier. Et tout était en ordre. Il y avait fait la connaissance de Renata Kreutzer et il se souvenait très bien d'elle. N'importe quel homme s'en serait souvenu. C'était une femme très séduisante, sans doute trop pour en être l'époux et dormir l'esprit tranquille. Bien qu'il préfère le type caribéen, les teints olivâtres, les corps menus et déhanchés, il n'avait pu s'empêcher d'admirer les magnifiques proportions et le visage attrayant de cette blonde qui aurait fait forte impression n'importe où dans le monde. Elle portait à cette occasion une robe noire qui rehaussait, plus que la couleur, la texture de sa peau de nectarine qui invitait au toucher. Non, il n'avait pas oublié Renata Kreutzer. Cette nuit-là, on l'avait vue contrite, mais elle ne pleurait pas. Résignée, avait-il pensé, la veuve Kreutzer avait l'air résignée. Alors il y a tout un passage au milieu de cet extrait qui fait quand même furieusement penser à un roman de science-fiction. Lorsqu'il décrit l'île, on pourrait très bien être sur une planète étrangère et découvrir un nouvel environnement. Même si le roman n'a pas d'aspect fantastique à proprement parler, il y a une chose tout de même qu'on pourrait rattacher à la littérature de genre, c'est la manière dont il traite l'espace et cette île invisible, puisque cohabitent en un seul point géographique deux réalités différentes.
Oui, effectivement, on a deux civilisations qui cohabitent dans cette île invisible, qui est celle des touristes allemands et non seulement les touristes, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour, les restaurateurs, qui sont tous européens. Et de l'autre côté, les habitants de l'île, les natifs. Donc, on a vraiment ces deux civilisations qui cohabitent. Et cette femme, Edeltraud Kreutzer, qui va partir à la découverte de l'autre côté de l'île, la face invisible de l'île, la bureaucratie, la lenteur, la nature chaotique, comme une exploratrice, en quelque sorte, d'un monde inconnu.
Les lieux secrets, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le catalogue de Dystopia, et notamment, tu parlais du premier livre qui vous a donné envie de fonder la maison et d'éditer, qui était Yamaloka Terminus de Jacques Mukeli et Léo Henry. Alors, vous avez publié trois livres autour des thématiques développées dans ce premier Yamaloka Terminus, et il y a un lieu emblématique qui disparaîtrait presque au fur et à mesure des publications, et qui est la ville de Yrmina-Dingrad. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Yrmina-Dingrad et sur le projet ?
Alors, ce serait une ville d'une, une république satellite de l'URSS, on va dire, après l'explosion de l'URSS. Donc, ça se situerait un petit peu par là. Et les trois livres, en fait, Yamaloka Terminus, Barayogoy et Tadjele, amènent trois aspects un peu différents. Dans le premier, on est réellement dans la ville, donc avec ses habitants, avec leur manière de vivre. Dans le deuxième, on n'est jamais dans la ville, on est toujours un petit peu autour. Tout ce qui va graviter autour. Et dans le troisième, on n'y est plus du tout, là pour le coup, puisque ce sont des gens qui sont partis en exil et qui sont un petit peu la diaspora de Yrmina-Dingrad. Donc là, on retrouve des gens au Brésil, au Portugal, aux États-Unis, un peu partout. Et là, effectivement, Yrmina-Dingrad est de moins en moins présente directement, même si forcément elle suit chacun des émigrants. Donc chaque livre, même si tourne autour de la même ville, a effectivement une approche et un projet un petit peu différent.
Monde parallèle encore, ou lieu secret, en tout cas, dans Les Soldats de la mer, cette thématique, on la retrouve un peu.
Écoute, j'ai pas pas bien compris ta question.
En fait,
je viens de parler de Yermina Nebon, d'accord, ok.
En fait, je parlais de la thématique des lieux secrets, des lieux cachés dans la littérature.
Ah ben oui, ben là, effectivement, il y a une continuité parfaite avec les soldats de la mer. C'est évident. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a une continuité, et puis surtout cette espèce d'endroit qui n'existe pas, la Fédération, c'est très proche finalement.
Dans plusieurs nouvelles.
Et ce qu'il y a de curieux, c'est que l'année prochaine, ils vont éditer une femme écrivain, je ne dirai rien d'autre, et où le thème continue encore, hein? Comme
oui,
ça.
Ce sera aussi dans cette thématique.
Ce sera aussi exactement dans cette thématique.
Presque à cheval entre les soldats de la mer et Yermina Dingrad, d'une certaine manière.
Ça fait saliver tout ça. Une question pour vous encore, Yves et Ada. J'ai commencé à parler de ces éditeurs en disant qu'en fait, ils faisaient du genre sans faire du genre, mais sans le renier, pour autant. Est-ce que vous êtes des écrivains de littérature de genre? Est-ce que vous êtes des écrivains de littérature? Comment vous vous définissez par rapport à ça? Par rapport à la notion de littérature de genre?
Moi, je pense qu'on est des écrivains tout court, qu'on fait de la littérature classique, normale. Bon, il se trouve effectivement qu'on n'est plus influencé par le fantastique et un peu la SF. Mais pour moi, d'ailleurs, la première édition des Soldats, apparue chez Julliard, sous la couverture verte et blanche, il n'y avait pas du tout la notion de... Attention, c'est un bouquin fantastique. Si le fantastique ne vous plaît pas, l'achetez pas.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais qu'il y a des libraires. Il y a des libraires qui ont une section de fantastique, de science-fiction un peu à part dans leur librairie. Et récemment, on a rencontré un libraire qui nous a dit « Moi, je vous présente toujours à part dans un domaine particulier qui est le domaine fantastique, mais je trouve que vos textes sont plus des textes de littérature normale et je vais vous changer. La prochaine fois, je vous mettrai... » sur la partie de la littérature normale, classique, générale.
On dirait que le fantastique est anormal. Oui. La littérature générale.
Dans certaines librairies, c'est un peu à part.
C'est une vision commerciale qui ne correspond pas, enfin commerciale, disons pratique, qui ne correspond pas à la manière dont vous ressentez l'écriture et peut-être à la manière dont vous ressentez l'édition aussi.
Oui, je ne sais pas si on est. Non, on ne se définit pas comme éditeur de genre. Il y a du genre dans ce qu'on fait, mais. Voilà.
Ça va au-delà de ça.
Oui. Puis après, ça se classe où ça veut en librairie, mais...
Alors, avec les soldats de la mer, on est entre le lieu secret et le monde parallèle, sans trop vouloir en dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Monde parallèle, on explore ça aussi chez Asphalt avec Tommaso Pincio. Les fleurs du karma, c'est le deuxième roman de Tommaso Pincio que vous éditez. Vous
aviez édité... paru cette année, oui. Voilà. On avait publié Chinachita l'année précédente.
Et Les Fleurs du Karma, je crois que c'était son premier roman à Pincio.
Pas son tout premier, mais il avait été publié avant Chinachita, effectivement.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Les Fleurs du Karma et la manière dont il exploite justement les mondes parallèles?
Alors, c'est très difficile de résumer Les Fleurs du Karma. C'est un livre qui a une narration qui a tendance à être un peu éclatée. C'est, on va dire que c'est... une visite des 60s aux États-Unis et des années hippies, en fait, des années flower power et notamment du Summer of Love, mais avec, à travers un prisme assez particulier qui est le monde parallèle qui très vite s'impose en fait dans la narration, qui permet vraiment à Tommaso Pincio d'explorer sa propre Amérique, en fait. Donc, pas seulement l'Amérique historique, l'Amérique des années hippies, où effectivement, qui ont connu une certaine décadence, les années qui ont suivi le fameux Summer of Love, mais une espèce d'Amérique éternelle, en fait, qui reste dans ce monde parallèle, exploré par l'héroïne, qui est une espèce d'Amérique faite de motels qui s'alignent le long d'une route éternelle qu'on parcourt en voiture sans que ça ait une fin. C'est un livre qui est très difficile à résumer, c'est un livre qui est très influencé par Philip K. Dick, que Tommaso Pincio a traduit en italien d'ailleurs, hein, et qui échappe un peu finalement à l'exercice du résumé.
C'est aussi le cas dans une autre publication qui est L'Employé. Alors là, c'est un auteur argentin.
Oui, et là, pour le coup, effectivement, on a spécifiquement une ville imaginaire, en fait, une ville qui n'est jamais nommée, une ville un peu à la Blade Runner ou à la Brasil, enfin, une ville de gratte-ciel, de verre, hein, où on a des employés qui triment jour après jour à faire des tâches de bureau dont on ne sait pas exactement à quoi elles servent. Et qui sont tous un peu fixés dans leur rôle. Donc il y a l'employé, il y a la secrétaire, il y a le patron, jusqu'au moment où évidemment il va y avoir un grain de sable dans l'engrenage, hein, qui va faire péter complètement les plombs au personnage principal, donc l'employé, qui donne son titre au livre.
À chaque fois, on est dans un rapport assez ambigu avec la réalité. Dans Les Fleurs du Karma, donc on a d'un côté ce monde parallèle qui est assez étrange, avec une poussière rouge qui se dépose partout, qui a des effets hallucinogènes. Et de l'autre côté, une Amérique des années 60, pas du tout mythifiée, où on voit vraiment le revers et la fin du monde hippie. De l'autre côté, l'employé, c'est pareil. On a quand même une forte impression que c'est une critique exacerbée de Buenos Aires et de la société argentine telle qu'elle se perçoit peut-être dans les années 2000.
Ah oui, c'est une vraie dystopie pour le coup. Enfin, il pousse les travers de la société argentine et particulièrement de Buenos Aires à fond pour en arriver à cette ville-là en fait de cauchemar où vraiment les enfants sont abandonnés, il y a des chiens clonés qui errent dans les rues. Les gosses abandonnés survivent avec des tournois de kickboxing. Enfin, c'est assez. C'est une vision vraiment sombre.
C'est un peu grotesque aussi.
Oui, et un peu grand-guignolesque, complètement assumé, oui.
On retrouve ça dans d'autres titres du catalogue, et notamment dans les ouvrages de Leandro Avalos-Blacha, pardon, Beraz-Ajustet et Côté Court, qui est sorti il y a quelques temps. Beraz-Ajustet, pour vous faire un résumé rapide, c'est quatre vieilles filles anciennes institutrices qui découvrent un cadavre dans un bois et. Le cadavre se réveille et ce cadavre est en fait une punk obèse zombie qui s'appelle Trash, qui a très faim de chair fraîche et qui va revenir dans leur ville avec elle, donc la ville de Beraz-Ajustet. Donc là, on erre dans un monde où les noms sont trompeurs puisque c'est toujours une combinaison de plusieurs choses, généralement des noms de banlieue de Buenos Aires avec d'autres endroits du monde.
Bon. Oui, tout à fait. La vraie ville, c'est Beraz-Ajustet. C'est une vraie ville qui existe en banlieue de Buenos Aires, mais c'est pas grave. Pour Blacha, c'est Beraz-Ajustet.
Et donc là, on commence par un roman avec un argument fantastique qui est cette punk zombie obèse, et on finit dans le grand n'importe quoi avec des lance-roquettes, une milice contrôlée par des handicapés, des femmes qui pètent, des gens qui pètent les plombs, et pratiquement une destruction quasi totale de la ville.
Avec une fin apocalyptique où effectivement la cité finit entièrement détruite.
Voilà, et c'est aussi le cas dans Côté Court. Alors là, c'est plus insidieux, c'est plus comme une invasion du quotidien par le fantastique. On commence par des récits, ce sont plusieurs nouvelles qui suivent et qui forment un tout. Donc on commence dans la cour d'une maison, d'une cité pavillonnaire, où les... on ne sait pas quand ça se passe, certainement dans un futur proche.
Aujourd'hui,
une société propose aux gens de cette cité pavillonnaire d'héberger un prisonnier chez eux, d'avoir une cage dans leur cour, et de, enfin, c'est une forme de privatisation assez cinglée de la justice.
Les prisons sont privatisées et donc chaque personne peut accueillir un ou deux prisonniers. On lui construit un petit abri dans la cour, charge à la personne du coup d'entretenir le prisonnier, lui donner à manger, et il est rémunéré donc en échange de ses services.
Et ça dégénère de plus en plus.
Oui, parce que ces prisonniers vont être utilisés notamment dans des paris avec des combats contre des animaux ou des choses comme ça. Effectivement, chez certaines femmes qui sont seules chez elles, il peut se créer certaines relations avec certains prisonniers. Donc en fait, tout le quartier va succomber à une sorte de frénésie autour de ces prisonniers. Hein. D'autant que la société qui gère tout ça, qui gère les prisons, qui gère la téléphonie, qui gère en fait toute la vie du quartier, qui est une mystérieuse société qui s'appelle Phonemark, il semble qu'elle utilise le quartier en question pour faire des expériences assez étranges.
On en arrive, enfin c'est pareil, ça commence à peu près normalement, et on en arrive à des moments de pur délire où par exemple l'antenne Formacom commence à provoquer des hallucinations ou des métamorphoses, on ne sait pas vraiment, qui mettent le quartier en émoi, et puis on retrouve à chaque fois quelque chose de la vie de quartier, quelque chose de beaucoup plus réaliste derrière tout ça, qui est les petites mesquineries entre les gens, et aussi quelques moments de poésie, des moments de pitié ou d'espoir, comme ce scientifique qui a dans sa cave une cinquantaine de femmes atteintes de la rage et qui essaye de les rééduquer.
Oui, tout à fait, oui.
L'invasion du quotidien, c'est encore une thématique qu'on trouve chez Dystopia. Avant de parler de Jean-Marc Agrati, je pensais parler de Lisa Tuttle. Donc là, on est dans du fantastique pur et dur, quoique...
Oui, quoique dans le recueil, il n'y a pas que du fantastique, il y a aussi un bout de SF et pas de fantastique du tout, mais ça tourne autour de cette thématique-là. Et évidemment, comme tout texte fantastique, j'allais dire classique, on est effectivement, on part d'un postulat assez normal, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, ça dérape, ou ça dérape d'ailleurs parfois beaucoup plus lentement dans le texte, jusqu'à arriver à une certaine forme de malaise. Voilà, chez les personnages et puis chez le lecteur aussi, j'espère.
Oui, ça marche assez bien. Jean-Marc Agrati, donc, on est peut-être dans une veine un peu à côté encore de l'invasion du quotidien, mais plus de l'appropriation de l'intimité. Alors là, c'est très étrange et très éclaté. Donc, le recueil s'appelle L'Apocalypse des homards et propose une série de nouvelles et de shots littéraires.
Voilà.
Alors, c'est quoi un shot ?
C'est des textes très très courts de 3 à 20 lignes, je vais dire, qui encadrent effectivement des textes un peu plus longs. Alors Jean-Marc Agrati, lui, c'est définir, enfin, si je l'appelais auteur de genre, je pense qu'il me tenterait le coup, hein, c'est pas du tout, il se définit pas du tout comme un auteur de genre. Pourtant, il y en a partout en fait. Là aussi, ça part souvent de principes et de situations assez classiques. On se trouve dans un supermarché, dans une usine, chez soi, j'allais le dire, et puis il peut se passer des trucs assez dingues. En fait, le premier texte que j'avais lu de lui, c'était dans Le chien des choses à dire. C'est mon premier contact avec Jean-Marc Agrati. Et ce premier texte s'appelait On foutait que dalle. Et en fait, c'était trois glandeurs au bas d'une cour d'immeuble. Et tout d'un coup, ces trois glandeurs tombent sur un alien. Voilà. Et puis, ça part dans le grand n'importe quoi. Et c'est juste jubilatoire. Et c'est tout à fait Jean-Marc Agrati. On retrouve ça beaucoup dans L'Apocalypse des homards.
Alors, tu dis c'est tout à fait ça, Jean-Marc Agrati, mais c'est quoi exactement ? Un mélange de foutraque, de...
Oui, de foutraque, bien sûr. En même temps, c'est très touchant parce qu'il met beaucoup de lui dans les textes, des personnes qu'il a rencontrées, des situations qu'il a vécues. Et puis, il parle beaucoup du quotidien. Encore une fois, on peut se retrouver dans un supermarché avec un père et son fils et parler de choses qui sont vraiment ce qu'on peut vivre au jour le jour. Sur un autre de ses textes, il m'expliquait qu'il, voilà, il se baladait, il était tombé sur une pancarte qui... sur laquelle il était marqué « Ici, l'herbe poussera librement », ça lui a donné l'idée d'un texte. Pareil, ça part d'un gars qui se balade dans la rue, et puis tout d'un coup, voilà, il tombe sur un jardinier qui joue avec une tête. Voilà. Et puis après, voilà. C'est...
Oui, on aborde des problématiques assez trash aussi, enfin des problématiques, des motifs assez trash. Alors pour ceux qui voudraient découvrir Jean-Marc Agrati, existe une de ses nouvelles en accès libre dans la revue Angle Mort, qui s'appelle « Le Punisseur », qui est un moyen assez violent, disons, de rentrer en contact avec sa littérature. À côté de ses délires et de cet aspect un peu peut-être malsain par moment, tout en étant encore assez poétique, on trouve des moments très oniriques aussi.
Oui, il y a notamment un texte où Jean-Marc Agrati en fait s'imagine parlant avec son double, avec lui-même. Donc le premier Jean-Marc Agrati serait celui que je connais moi naturellement, on va dire, et parlerait avec celui que Jean-Marc Agrati aurait pu être s'il avait continué une carrière d'ingénieur, etc., etc. Et du coup, il y a beaucoup de choses dans ce texte, par exemple sur quel sens il a donné à sa vie, quelle décision il a prise à quel moment, et qu'est-ce qu'il aurait pu devenir. Donc c'est aussi un texte fantastique, forcément, hein, puisqu'on rencontre pas toujours son double.
C'est très bon, c'est très borgésien, ça.
Oui, oui, tout à fait. Après, la fin est plutôt grotesque, j'allais dire, plus que borgésienne. Mais c'est très touchant aussi, oui.
Une de ses caractéristiques, c'est la déformation du quotidien. on part encore une fois d'une situation assez normale. Je me souviens d'une nouvelle notamment qui est la fin du sucre étanche, où c'est un homme et sa copine qui font des courses au supermarché et un type fait de la réclame pour une nouvelle boîte de sucre. Alors comme ça, ça a l'air super passionnant. et puis encore une fois, ça dégénère.
C'est une épopée à la fin. C'est une vraie épopée.
Et ça devient un vrai déferlement populaire, hein, une sorte de soulèvement emphatique dans le supermarché où tout le monde se révolte contre la société, en même temps de manière assez vaine, mais... Il y a un grand désespoir chez lui.
Oui, tout à fait, mais on retrouve vraiment... Là, c'est vraiment très bien vu sur qu'est-ce qu'on trouve dans un supermarché, sur la manière dont on essaie d'appâter le client, sur le côté publicitaire qui devient presque n'importe quoi, presque absurde. Et justement, il joue de cette absurdité sur ce texte-là. Mais voilà, il y a une manière de saisir, de croquer le quotidien qui est assez extraordinaire, je trouve.
La vision biaisée du monde, on retrouve ça chez Asphalt, chez Félix Brozon et chez... Moucha qui a écrit dans tes yeux
tes yeux dans une ville grise.
Tes yeux dans une ville grise, voilà.
Question.
Non, ça se passe un peu de la même manière. On reste dans des domaines assez oniriques où on part sur d'autres choses. Comment ils expriment ça en fait? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez frappant chez Asphalt, c'est que les narrateurs ont quand même tendance à être assez antipathiques, et notamment chez Brozon. Donc il y a deux livres publiés chez Asphalt de Félix Brozon, Les Taupes et Solarium.
Et Solarium, oui.
Les deux sont extrêmement surprenants, là encore, dans la manière dont le récit est conduit. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que le narrateur est soit un imbécile congénital, soit un menteur, soit quelque chose entre
dur.
Les deux.
Moi, j'aime beaucoup les narrateurs de Brozon parce qu'à chaque fois, déjà, tout passe par leur voix parce que c'est des narrations à la première personne. Hein, et ils ont un côté grand naïf, un peu rêveur, donc oui, pour le côté onirique, tout à fait, hein, qui n'ont pas tout à fait les pieds sur terre. Donc, je dirais pas, contrairement peut-être au narrateur de Tes yeux dans une ville grise qui a ses côtés antipathiques, pour les personnages de Brozon, je dirais que c'est plus des grands rêveurs, en fait, qui vivent pas forcément la vie dont ils auraient souhaité, qui sont un peu là contre leur gré, qui se retrouvent un peu à devoir se faire balader par la vie, en fait, et à pas réussir à vraiment mener leur existence de leur propre chef.
Donc dans Solarium, en fait, tout commence avec un laveur de piscine qui entend un coup de feu, mais peut-être que c'était pas un coup de feu, peut-être que c'était rien, mais peut-être que c'en était un, et ça commence à envahir son quotidien.
En fait, le personnage du laveur de piscine, c'est Félix Brozon lui-même, puisque c'est la profession qu'il exerce, en fait. Effectivement, ça se passe un après-midi caniculaire, il fait vraiment très chaud, c'est l'été à Buenos Aires, donc l'hiver pour nous, et soudain, il entend ce coup de feu, et très longtemps, il n'est pas sûr de ce qu'il a vraiment entendu, et très vite, il se rend compte qu'effectivement, oui, il s'est passé quelque chose ce jour-là, et il a vu quelque chose, et forcément, il est vu comme... une menace, je dirais, pour les tireurs du coup de feu en question, quoi. Donc on découvre peu à peu, façon puzzle, ce qui s'est passé en fait ce jour-là et la façon dont les auteurs du coup de feu, donc qui sont des cambrioleurs, vont remettre la main sur ce narrateur pour lui proposer un marché, on va dire.
Donc appropriation de l'intimité, il y a une autre thématique qui est assez centrale dans les littératures de genre, c'est le vertige par l'éloignement. On parlait tout à l'heure de l'île invisible, on vous en a lu un extrait. L'éloignement, il peut être aussi temporel, et il pourrait s'agir aussi de réinventer l'histoire. Alors, par rapport au catalogue dystopia, on pense bien entendu aux Soldats de la mer aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire, l'histoire en tant que telle, et sa réinvention?
Oui, mais je ne réinvente pas l'histoire telle qu'elle s'est passée. Il faut le déplacer complètement dans un autre univers très proche où on peut imaginer une autre forme de création de l'Europe, par exemple, mais sans revenir exactement à ce qui s'est passé actuellement.
Pour le prophète et le vizir, c'est presque un peu plus proche et avec une manière de retourner l'histoire du futur vers le passé.
Ah là c'est un recueil qui repose sur des prophéties. Des prophéties qui partent du 8e siècle jusqu'à nos jours. Et là, on a repris très exactement la vérité historique. Mais c'est un personnage qui, au 8e siècle, raconte ce qui va se passer au 10e, au 14e, au 16e, au 20e, etc. et il n'est pas connu, ça n'intéresse personne à cette époque-là de savoir ce qui va se passer, en particulier quand il annonce aux Arabes d'Abu Dhabi qu'ils vont faire une fortune avec la saloperie qui pousse, qui sort du sable et qui souille leurs godasses. Ils appellent ça, c'est la diarrhée de djinn. Ça ne leur dit rien du tout.
Ça les fait rire,
c'est tout. Bon, ce prophète, il a des problèmes quand il s'approche de la réalité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fait des prophéties qui ont lieu dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 3 mois. Et alors là, ça devient grave, parce qu'il est confronté immédiatement avec la réalité. Et il est confronté surtout avec des gens qui refusent ce qu'il a apporté comme prophétie. Et en particulier, il rencontre un vizir qui dit « Tes enfants seront condamnés à mort très prochainement ». Le vizir, immédiatement, n'a qu'une seule envie, c'est de tout faire pour contredire la prophétie. Et à ce moment-là, ça prend des histoires épouvantables et on se bat le destin contre les gens qui luttent, qui ne veulent pas que le destin s'accomplisse.
C'est une manière de renverser le rapport à l'histoire où tout ce qui est le plus éloigné dans le passé nous semble désuet.
Ou dans l'avenir.
Ou dans l'avenir.
Ou dans l'avenir, oui.
En revanche, tout est vrai sur le plan historique. Ouais. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment se fait-il qu'il ait vu, comment il s'appelle, Michel-Ange, qui allait peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Et personne n'a jamais entendu à cette époque-là le nom de Buonarroti, ni d'un pape qui s'appelle Jules II. Et finalement, quand même, ils se disent, bon, il faudrait peut-être quand même qu'on surveille un pape qui s'appellera plus tard Jules II. Et de pape en pape, il faut redire cette histoire. Et il faut absolument qu'il fasse peindre le plafond d'une future chapelle par un certain Buonarroti, parce qu'elle aura un succès fou dans le monde entier. Et c'est vrai que Michel-Ange a refusé à Jules II de faire, il a dit qui c'était déjà le frappe beaucoup mieux
Raphaël,
que moi.
Raphaël.
Oui, Raphaël le frappe beaucoup mieux que moi. Moi, alors là, ça ne me dit rien du tout. Et Jules II a exigé au pauvre Michel-Ange, il a exigé que le pauvre Michel-Ange le fasse quand même. Et il a beaucoup souffert, mais il l'a fait. Et on connaît le résultat. Et tout le petit livre, tout est vrai. Voilà.
Dépaysement temporel, dépaysement spatial aussi. Littérature du dépaysement, c'est un peu une spécialité du catalogue Asphalte.
Oui, nous, dès le début, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment publier des romans de partout dans le monde, de toutes les aires linguistiques, je dirais. Il s'est trouvé que finalement, on a fait beaucoup de Sud-Américains, ce qui n'était pas une volonté de départ, c'est juste qu'en fait, on a vraiment trouvé ce qu'on aimait dans la littérature sud-américaine. Notamment beaucoup d'Argentins au début, et maintenant un Péruvien, un Vénézuélien, donc l'auteur de L'île invisible, des Brésiliens. Mais effectivement, oui, enfin, le voyage a toujours fait partie des éléments d'Asphalte dès le début. Ça a été vraiment une des bases sur lesquelles on avait envie de faire notre maison d'édition, de parler d'ailleurs, et pour nous aider aussi à nous comprendre nous-mêmes, mais aussi... pour se dépayser par la lecture, pour voyager par la lecture.
Donc on voyage en Amérique du Sud, mais aussi en Irlande.
Mais aussi en Irlande, en Thaïlande, en Italie.
On va surfer en Australie.
On va surfer en Australie. On va dans des terres imaginaires et imaginées aussi. On va dans un pays imaginaire qui est situé sous l'Islande, dans une grotte, dans le roman Icelander par exemple. Donc voilà, il n'y a pas que des lieux réels. L'idée, voilà, c'était vraiment aussi de promener le lecteur en nous promenant nous-mêmes et en faisant découvrir d'autres horizons.
On va finir par parler. Alors, les éditions Dystopia Workshop viennent de sortir 2 nouveautés. La première, c'est un recueil de nouvelles d'une auteure qui s'appelle Luvan. Le recueil s'appelle Cru. Et la deuxième nouveauté, c'est un roman de Léo Henry et Jacques Mukeli aussi, qui s'appelle Sur le fleuve. Et là, pour le coup, on part loin dans l'espace et dans le temps.
Alors, sur le fleuve, oui, ça sera un croisement bizarre, on le disait tout à l'heure, entre Aguirre et la colère de Dieu, et puis les mystérieuses cités d'or. Ce qui peut paraître curieux dit comme ça, mais ça marche assez bien. Donc effectivement, là, on est dans le temps et dans l'espace assez loin de nos préoccupations d'aujourd'hui. Et on descend en fait un fleuve avec tout un tas d'aventuriers à la recherche d'une, voilà, d'une cité, on va dire.
D'une cité censée, enfin d'une cité censée Mandor.
Voilà.
Alors, on retrouve des précédents ouvrages de Léo Henry et Jacques Mouchielli, le souci du nom qui sonne, un peu un héritage aussi de, qu'ils ont récupéré chez Antoine Volodine, ou une petite influence en tout cas. Donc là, on a à la tête de l'expédition Javier Jiménez, noble castillan, mais on a aussi le Padre Revilla, un ancien inquisiteur sévillan, Matteo Espina, son secrétaire vénitien, Jens Velmans, soldat néerlandais, Doumer Enouzou, mercenaire corte, Aritza Ibai Makila, marin navarrais, Francisco Prado, chasseur galicien. C'est toute l'Europe qui se jette sur le fleuve à la recherche des cités d'or.
Oui, dont les Corses. Oui.
on va pour terminer, enfin, je vais vous lire un petit passage de Sur le fleuve pour vous donner une idée de ce que c'est. On est à peu près au tiers de l'ouvrage. Là. La première fois qu'il avait vu la forêt, des mois plus tôt, elle lui était apparue comme un lieu enchanté, la nature dans sa perfection. Il s'était rappelé les vers de Dante, « Dans mon désir de voir au-dedans et dehors, la divine forêt épaisse et frissonnante qui rendait à mes yeux plus doux le jour nouveau. » Oui, le jour, alors, paraissait plus doux, la jungle semblait l'orée d'un paradis. Harcelé par les moustiques, moulu des courbatures que la marche infligeait à ses jambes, les larmes aux yeux, Matteo se disait que si Manoa, la cité qu'il recherche, était l'Éden, qu'il cherchait, la forêt était le pire purgatoire qu'il faille affronter. Le premier jour, on avait tenté l'escalade. Matteo en avait encore les paumes à vif, ouvertes par des cordes rugueuses. Trois jours plus tard, chaque muscle de son corps le faisait souffrir. Les ombres, les bruits de la forêt continuaient de le terrifier. Il ne lisait plus. Les voyages que comptait Mandeville dans son ouvrage lui paraissaient sans couleur. Ses licornes, ses dragons, ses acéphales et monocérons étaient des monstres bien pâles comparés à ceux qui, cela ne faisait aucun doute, se tapissaient dans l'épais de la végétation. Il était comme un de ces sacrifiés offerts aux Minotaures, incapables de fuir le labyrinthe de leur prison. La jungle était un dédale sans mur, sans couloir, ni porte, mais dont personne ne pouvait s'échapper. Elle cachait certainement des créatures bien pires que l'homme à tête de taureau. On dut bientôt descendre une nouvelle paroi à l'aide de cordes. Tous leurs efforts les avaient menés au bord d'un apic. Il faudrait des jours pour trouver un autre chemin, tandis que quelques heures seulement pouvaient en venir à bout par l'escalade. Un vent sourd noir raclait la pierre. Matteo ne sentait plus ses bras. Une pierre roula, il trébucha, glissa sur quelques mètres. La corde qui le retenait se tendit brusquement, lui sciant les aisselles, et sa tête vint frapper une arête rocheuse. Il sentait son cœur battre à ses tempes. Il resta là un temps, suspendu à flanc de montagne, incapable du moindre mouvement, de la moindre pensée. Ses lunettes avaient glissé de son nez. Elles churent, accrochées à un rayon de soleil, disparurent. On criait quelque chose. Il n'entendait rien, qu'un murmure, qu'une vibration. Le vertige lui retournait l'estomac. Sous ses mains, qui cherchaient des prises, il sentait la roche s'effriter. Un Indien finit par descendre jusqu'à lui, lui tendre la main pour l'aider à reprendre pied. La montagne vibrait. Quand je sentis soudain la montagne trembler, comme un roc qui s'écroule et une sueur froide qui m'envahit pareil aux affres de la mort, disait le poète. Au moment où il prenait pied, la corniche sur laquelle se trouvait le sauvage s'effondra. En un instant, l'Indien fut emporté par l'abîme. Des deux mains, il griffait l'air, espérant un appui auquel se rattraper. Matteo détourna la tête. Il ne voulait pas le voir disparaître, ne voulait pas lire la peur dans ses yeux. On finit par hisser l'Italien jusqu'au reste de la troupe. Il resta hébété, assis contre la muraille pendant de longues minutes. Quand il reprit ses esprits, le bruit qui hantait ses tympans ne le quittait plus. Il leva la tête, les autres tendaient l'oreille. Un battement régulier, encore et encore, comme des tambours. Il perdit connaissance. Voilà, je vous laisse découvrir la suite de ce très très beau roman. Alors, il paraît que c'était un roman écrit pour une collection jeunesse.
Oui, au départ, c'était ça, en fait. Et après, ça, voilà, c'était un peu retravaillé. C'est un peu moins jeunesse qu'avant. Beaucoup moins, même.
C'est tout de même assez, assez violent et assez fort. Voilà. Avant de finir la soirée, Charlotte Desmousseau va nous parler de sa petite sélection de titres de chez Asphalt.
Donc moi, je me suis beaucoup promenée cette année dans le catalogue des éditions Asphalt parce que j'ai tendance à croire qu'une librairie se fait par des rencontres et des envies de promouvoir le travail de petits éditeurs. Donc j'ai fait entrer à la librairie en janvier les éditions Dystopia et Asphalt. Et je pense que Les Taupes a été une des premières lectures de mon année. Et ça a été vraiment un moment de lecture très fort où j'ai senti un écho vraiment avec ce que je souhaitais présenter dans la librairie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la librairie des Machines de Lille, elle est située sur le site touristique des Machines de Lille, touristique et culturel, où on peut voir un éléphant géant articulé en bois et métal, donc une invitation au rêve et une sculpture urbaine. Et ce qui manquait à ma librairie, c'était cette littérature très ancrée dans la ville et dans un aspect très contemporain, de nouvelles voies émergentes, très urbaines. Et le catalogue Asphalte est vraiment venu rencontrer les envies que j'avais pour la librairie. Donc j'ai essayé pas mal de collections de polars et de genres et ça n'a pas trop marché jusqu'à maintenant. Et du coup, le catalogue d'Asphalte a vraiment permis cette entrée du public polar et très urbain. Donc je vais vous présenter, après avoir pas mal parcouru le catalogue, quelques ouvrages qui me tiennent vraiment à cœur. Donc le premier, c'est Les Taupes, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est l'histoire d'un fils de disparu pendant la dictature argentine. Et on s'attend du coup à un discours assez classique et déjà beaucoup connu en littérature. Et là, on est dans une quête identitaire et sexuelle. On va complètement on va entrer dans une grande modernité du propos de cette quête déstructurante. Et ce personnage passe par un espèce de road trip à travers l'Argentine où il essaye de... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a eu un écho et c'est très cinématographique. C'est une écriture qui m'a vraiment étonnée de son rapprochement avec le cinéma argentin, enfin d'Amérique du Sud à l'heure actuelle, ou ce qu'on peut avoir aussi beaucoup dans le cinéma japonais actuel, quoi. Donc on est vraiment dans une écriture moderne qui manquait. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un travail éditorial à la fois éclectique et très homogène dans le catalogue d'Asphalte. Donc il y a aussi des textes que je qualifierait entre guillemets de classique ou de patrimoine, comme cette pépite que j'ai eu l'occasion de lire la semaine dernière, qui a été vraiment quelque chose de très fort pour moi. C'est Chat sauvage en chute libre, qui a été écrit par un sang mêlé. Tu m'arrêtes, Claire, quand je me trompe. Hein.
Oui, c'est un métis aborigène, ouais. Tout à fait.
Ouais. Voilà. Et qu'il a publié en Australie en 1965, enfin dans les années 60, sous son nom civil. Il ne pouvait pas, à cette époque-là, prendre son nom aborigène. Et c'est un texte qui va parler des conditions de vie dans les prisons, de la misère sociale et raciale. Vraiment, on est dans un écho de la minorité aborigène, et c'est par des flashbacks sur l'enfance de ce personnage qu'on suit à la sortie de prison, qui va être dans les années 60, c'est pas vraiment hippie, il est dans une culture jazz, donc il y a vraiment ce qu'on pourrait retrouver aux États-Unis et que là on découvre en Australie. Donc c'est vraiment un texte qui fait découvrir l'Australie. Pour moi, ça a été vraiment une très belle découverte, une écriture... J'étais très étonnée que ce texte-là n'ait pas été connu avant, quoi. Pour moi, c'était vraiment un contexte social. Et c'est ce que j'aime aussi dans les éditions Asphalte, c'est cet ancrage très social. Et très... Les villes sont souvent les personnages des romans, en fait, comme dans « La vie est un tango » qui se passe à Cuba, qui est sorti cette année, et qui est un polar d'ambiance, mais où le personnage principal est le quartier d'une de ces villes de Cuba, où on va suivre un commissaire un peu mélancolique. Voilà, on a vraiment les archétypes de l'enquête policière, mais c'est pas ça le principal, quoi. On est vraiment dans une découverte. Il y a la langue, il y a la cuisine, il y a les mœurs, il y a la vie de ce quartier qui emprisonne les gens dans leurs conditions sociales. Et c'est, pour moi qui lis jamais de polar, ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier, donc merci beaucoup pour ça. Et je vais enchaîner, je garde celui-là pour la fin. Je vais enchaîner avec L'île invisible que vous avez évoqué et qui se passe sur une île des Caraïbes rattachée au Venezuela. Et c'est pour moi un grand roman mélancolique. Alors c'est pareil, on est dans le polar sans y être vraiment, c'est une très belle écriture. On a toute une première partie d'immersion, le début de l'enquête d'un homme qui, on ne sait pas s'il s'est noyé ou s'il a été tué, donc toute l'enquête va tourner autour de ça. Et on est la deuxième moitié dans les bas-fonds de cette île invisible en fait, ce que les touristes ne voient pas et qui est rattachée au combat de Coq. Donc c'était très étonnant, je ne m'attendais pas du tout à ça au début du livre, je pense que tout le monde se fait surprendre. Et on passe d'une ambiance vraiment moite, un peu nonchalante, à cette noirceur, ce rapport aux animaux et à la folie. En fait, il y a une espèce de folie douce qui poursuit les personnages tout au long du roman. Enfin voilà, après c'est mon point de vue, hein, je te laisserai Claire répondre à tout ça. Et mon petit chouchou, parce que je lis vraiment jamais de romans noirs, et là, c'était super, c'était vraiment bien. C'était noir, 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 ça se passe au Brésil, et là, c'est vraiment une plongée dans la corruption, dans la... Bah, on est toujours dans ce questionnement social, donc dans des classes moyennes plutôt supérieures, un peu people, hein, le début est comme ça, et on suit un commissaire... très mélancolique, il y a des très beaux fantasmes amoureux, il y a vraiment plein de choses dans ce livre-là qui vont au-delà du genre, en fait, qui sont, enfin, c'est une très belle découverte. Et je voulais aussi évoquer cette collection dont on n'a pas parlé, qui a été aussi une de mes premières entrées dans le catalogue d'Asphalte, c'est la collection Noire, donc qui reprend des villes, c'est plus ou moins, on peut le mettre... comme un guide de voyage, en fait, et chaque nouvelle, ce sont des recueils de nouvelles, vont s'attacher à un quartier d'une ville et tirer un portrait littéraire et d'ambiance de ville, voilà. Donc il y a plusieurs titres, et je crois que le prochain à paraître, c'est La Havane, c'est ça ?
C'est La Havane qui va paraître la semaine prochaine.
Voilà, il y a Haïti qui marche très bien, qui est assez étonnant, voilà. Donc je voulais vous remercier pour ce travail-là, que je suis très heureuse de défendre à la librairie.
Oh, merci. C'est vrai que la collection en fait, des villes noires, on l'a faite dès le début. C'était une collection qu'on avait repérée chez un éditeur américain, Akashic, un éditeur indépendant de Brooklyn. Effectivement, nous, tout de suite, ça nous a tapé dans l'œil. C'était vraiment exactement ce qu'on voulait faire. C'était de l'exploration urbaine. C'était une forte notion de quartier aussi, parce que dans ces anthologies, il y a une nouvelle par quartier. Donc chaque auteur s'empare d'un quartier, parle du quartier. Et du coup, tout ça, ça forme une mosaïque qui offre un portrait littéraire de la ville. Et surtout pour la question du genre qu'on a abordée au tout début, effectivement, c'est noir, hein, mais après, c'est pas seulement du polar, c'était vraiment explorer le noir sous toutes ses formes. Et effectivement, il y a certaines anthologies où il y a des textes qui sont clairement des textes de science-fiction. Je pensais notamment à Délit noir qui s'achève sur un excellent texte de science-fiction sur la délit du futur, en fait. Voilà.
Merci beaucoup. Bon, ça a été très rapide et lacunaire. On a parcouru un petit bout de vos catalogues respectifs ensemble. Donc, Dystopia, c'est 8 titres plus une anthologie, si je suis bien à jour. Asphalte, 24 romans à découvrir, autant de destinations. J'espère qu'on vous aura donné un peu envie de voir tout ça et de plonger plus en profondeur dans ces catalogues qui sont passionnants. Voilà. Merci Olivier, merci Claire, merci Yves et Ada, et merci beaucoup Charlotte d'avoir fait que cette rencontre soit possible.
Bah, merci à vous de vous être rendu disponible pour cette aventure-là, et je voudrais remercier Ségolène aussi qui me donne un coup de main sur la vente des livres juste à côté.
Voilà. Et vous pouvez aller voir les livres à la table juste là-bas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.